Chapitre 7. Jinnah, 11 juillet 2018. Il n'est que 7h du matin, mais le soleil est déjà haut. Dans ma chambre d'hôte du centre historique d'Aigues-Mortes, fenêtre ouverte, la tiédeur de la nuit était très agréable. Contre toute attente, j'ai dormi comme un bébé, protégé par la moustiquaire de mon lit à baldaquin. Je déplie mon corps en effectuant quelques mouvements doux de yoga, mais sans Olga qui peste et gronde à côté, ça n'est pas la même chose. Je laisse rapidement tomber et me rabats sur le copieux petit déjeuner. L'effet sur ma santé n'est pas tout à fait équivalent au yoga, c'est vrai, mais si je dois mourir un de ces jours, autant avoir mangé le plus de croissants au beurre possible. Avant de m'endormir hier soir, j'ai relu la lettre de mon grand-père. Je la connais quasiment par cœur. Mais l'émotion est toujours aussi forte. Parce que le récit est terrible, bien sûr. Mais aussi parce qu'il éclaire d'un jour nouveau les relations au sein de ma famille. Mon père n'a jamais su ce qu'il avait vécu, bébé. Quelle trace ce douloureux épisode a-t-il laissé dans le lien entre mon père et mon grand-père ? Mon père était distant, presque froid, c'est vrai. Mais malgré son aridité apparente, il m'aimait si fort, avait si peur de me perdre, qu'il m'a tatoué le bras gauche, moi aussi, alors même que ça ne se faisait plus à mon époque. Et moi, j'ai eu si peur de ne pas parvenir à aimer mon propre fils à sa naissance, que je l'ai sans doute aimé trop ensuite. Les gens ont toujours mis ce trait de caractère sur le compte de mon côté « mamma italienne ». Mais les gens ne savent rien de la vie des autres. Est-ce que les angoisses et les peurs se transmettent d'une génération à l'autre ? Sûrement. J'enfile une jupe longue, fluide, un chemisier à fleurs léger, et au moment de mettre mes collants, je marque un temps d'arrêt. Toute ma vie, je me suis pliée aux conventions, du moins en apparence. Mais ce matin, je me dis qu'il est bien temps d'assumer certains choix, aussi minuscules soient-ils. Alors je prends une grande inspiration et je replie mes collants dans la valise. Aujourd'hui, je sortirai jambes nues. C'est totalement ridicule, mais cette timide rébellion contre moi-même me remplit d'allégresse. Je fais quelques pas dans la rue avec une sensation nouvelle sous ma jupe, mais plus j'avance, plus mes pensées s'assombrissent. J'approche du centre névralgique des événements d'Aigues-Mortes, et même si le lieu n'a plus rien à voir, je ne peux m'empêcher d'imaginer. Je pense à Adélaïde Fontaine, la boulangère, et je frissonne de nouveau. Mon grand-père la considérait véritablement comme une héroïne. Son courage a permis de sauver plusieurs dizaines de personnes, dont mon père. Combien de descendants ces Italiens ont-ils eu ? Combien connaissent l'histoire de ce massacre oublié ? Car l'épilogue de cette affaire est douloureux, je l'ai appris depuis. Après le drame, la loi du silence s'est imposée à Aigues-Mortes, chacun hésitant à dénoncer son voisin, de peur des représailles. La compagnie des Salins du Midi n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Ni les conditions de travail, ni la rémunération au rendement collectif n'ont été mises en cause. Les autorités locales et les jurés de la cour d'assises ont subi d'innombrables pressions et menaces. Et quelques mois plus tard, l'incroyable verdict est tombé, acquittement général. L'épisode a presque été rayé de la mémoire collective, mais il demeure un fantôme au goût de nuit pour les habitants d'Aigues-Mortes. Adélaïde Fontaine a défendu une précieuse parcelle d'humanité au péril de sa propre vie. Quand mon projet fou est né, il m'a semblé évident de remercier sa famille. J'ai mis mon petit Adrien d'Anguin sur le coup. En quelques clics, il a identifié un homme qui se bat depuis des années pour que les événements tragiques de 1893 soient commémorés et que les agissements des quelques justes ayant permis de sauver des vies soient reconnus. Cet homme, c'est Léopold, l'un des arrière-petits-enfants d'Adélaïde Fontaine. C'est avec lui que j'ai rendez-vous ce matin, à la terrasse d'un café touristique de l'ombragé Place Saint-Louis, cœur battant de la ville. Le mien accélère lorsque je prends conscience que je me trouve à l'emplacement exact de la boulangerie, qu'à quelques mètres de moi s'est jouée l'histoire de ma famille il y a 125 ans. Léopold m'identifie tout de suite. Il se lève respectueusement et son accent chantant typique de cette partie du Gard me plaît beaucoup. C'est un homme d'une soixantaine d'années, assez trapu, presque chauve, au visage poupon, au charme nonchalant et aux yeux rieurs. Il commande deux cafés, tandis que je commence à tout lui raconter. La lettre de mon grand-père, mon extravagant jackpot, mon projet. Cette somme que je souhaite offrir à lui et sa famille. C'est tellement peu, face à ce qu'Adélaïde Fontaine a fait. Il me regarde avec des yeux ronds, se demandant sûrement si j'ai perdu la boule. Puis il éclate de rire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une caméra cachée? Une arnaque? Il regarde autour de lui d'un air soupçonneux, puis ses yeux se fixent de nouveau sur moi. J'ai l'impression qu'il tente de me transpercer. J'en suis presque gênée. Je ne dis rien. Je le laisse digérer. Je sais bien que tout cela est difficile à imaginer. Moi-même, il m'a fallu du temps pour intégrer la nouvelle de mon gain. Il boit une gorgée, puis reprend. Je ne crois pas un mot de ce que vous venez de me dire. D'un autre côté, j'ai du mal à comprendre quelles pourraient être les motivations d'un tel mensonge. Je me mets à votre place. Je pense que je réagirais comme vous. Si une hurluberlue débarquait avec une histoire aussi abracadabrantesque. Je vous informe simplement que vous serez contacté d'ici quelques semaines par le casino d'Anguin. Il vous suffira d'acquiescer lorsqu'on vous demandera de confirmer que vous avez bien cofinancé la somme jouée par mes soins sur la machine le 30 juin 2018 pour toucher votre part de 100 000 euros. Il m'écoute, puis s'appuie contre le dossier de sa chaise en osier tressé. Il vacille, je le sens. Léopold, j'ai 85 ans. Ce que j'avance est la pure vérité. J'habite à Paris, je ne vous connais pas, je ne vous demande rien, si ce n'est d'accepter l'immensité de ma gratitude pour ce qu'a fait votre arrière-grand-mère. Il est ému. C'est donc qu'il commence à me faire confiance, à y croire. Il hésite, baisse les yeux puis redresse la tête. Son regard est humide tout à coup. Dina, je ne sais pas quoi vous dire, mais si ce que vous avancez est vrai, je ferai en sorte d'appliquer à la lettre vos consignes. Il plante son regard brun dans le mien et ajoute « Cet argent, je ne peux pas le considérer comme mien. Ça ne serait pas légitime. Bien sûr, je ne roule pas sur l'or, mais je ne comptais pas sur ces 100 000 euros pour finir ma vie. Je serai à la retraite dans 6 mois. Et j'ai quelques économies pour mes vieux jours. En revanche, il marque une pause. Son visage s'illumine soudain. J'ai l'impression d'avoir en face de moi un gamin surexcité ayant trouvé la solution à un problème d'algèbre. En revanche, je sais ce que je peux en faire. J'ai créé une association il y a 5 ans pour faire connaître ce chapitre oublié de l'histoire de l'immigration italienne et rendre hommage à mon arrière-grand-mère, au curé de la ville et à la poignée de héros qui ont sauvé des Italiens du lynchage. C'est l'association qui utilisera cet argent, personne d'autre. J'ai tout un tas d'idées de conférences, de rencontres dans les écoles. Ce qui manque, c'est ce que vous m'offrez. Il se lève, me demande s'il peut m'embrasser. Je rougis en répondant oui. Alors il se penche vers moi, dépose un baiser sur ma joue et me lance « Gina, vous êtes une belle âme ». Je sens ma tête chauffer, je dois être écarlate. Puis il ajoute « Je suis heureux que mon arrière-grand-mère ait sauvé votre papa. Le monde n'aurait sans doute pas été tout à fait le même sans vous.